Il est 14h05. Bienvenue ou re-bienvenue dans Trudeau Landry, 25226 pour nous rejoindre par messagerie texte. 670-9330 s'il y a quoi que ce soit à signaler, notamment sur la route. Le ciel qui est de plus en plus gris. On attend pas mal de pluie au cours des prochaines heures. On a parlé avec Martin McGuire du sport. On parle de la passion, du divertissement, mais tout l'aspect business qui tourne autour de ça, que ce soit le hockey, le football avec l'Euro, les Jeux olympiques, le tennis. On voit ce qui se passe à Wimbledon avec nos Canadiens qui font bonne figure. Toujours très, très, très intéressant de parler de ces aspects-là avec Ray Lalonde, notre expert en sport et marketing qu'on rejoint avec plaisir. Salut, Ray!
Salut, messieurs.
Commençons par la finale de la Coupe Stanley. Martin McGuire nous disait tantôt, ne vous détrompez pas, la Ligue nationale de hockey était contente de voir le Canadien aller en finale de la Coupe Stanley. Quand tu regardes ça d'un point de vue business, d'un point de vue code d'écoute, la façon que ça s'est déroulé, est-ce que effectivement la LNH avait raison d'être content?
Ben, il y a plusieurs réponses à ça. La première, c'est que si tu regardes NBC, c'était leur dernière année de diffusion. C'est fini pour eux, le hockey de la Ligue nationale. Ils passent aux Jeux olympiques dans 10 jours à peu près. Mais c'est ESPN puis Turner Sports qui vont prendre la relève. NBC, on en a parlé, on fait un bon travail depuis presque 20 ans. Et ils sont partiellement responsables du succès du hockey aux États-Unis actuellement, avec Batman, avec USA Hockey, avec le développement des franchises plus solides aux États-Unis. Mais honnêtement, si t'es Gary Batman ou la Ligue nationale ou les gros partenaires commerciaux, les commanditaires, là, tu voudrais toujours avoir Los Angeles et New York. Pour la simple raison que ce sont des dizaines de millions de téléspectateurs potentiels. Le marché de Tampa, c'est le 12e marché en importance télé aux États-Unis. Alors, c'est pas mal, c'est un marché moyen. Et le marché de Montréal ne compte pas dans le marché américain. Alors, oui, c'est le fun d'avoir une équipe canadienne présente. Ça fait 27, 28 ans maintenant officiellement qu'une équipe américaine gagne la Coupe Stanley consécutivement. Le Canada est important, mais la présence d'une équipe canadienne en finale, ça a changé la donne par rapport aux audiences télé au Canada. Mais si tu perds un des deux marchés aux États-Unis, parce que quand t'as un New York, Los Angeles, Chicago, Philadelphie, Houston, tu sais, ces marchés-là, ben, t'as toujours deux villes qui sont régionalement tous branchées au hockey de leur équipe ou au sport de leur équipe. Tu sais, c'est le cas avec la NBA actuellement. Prends la finale NBA, t'as Phoenix, 11e marché, puis Milwaukee, 37e marché. Ouais. C'est certain qu'à Milwaukee, il y a 60-70% des gens qui regardent la finale de la NBA parce que les Bucks jouent, mais ça attire pas grand-chose ailleurs. Et ces chiffres-là sont quand même modestes. C'est la même chose quand les Canadiens jouent en finale de la Coupe Stanley. Il y a un des deux marchés qui ne compte pas sur le radar américain.
Ray, si on regarde au Québec sur l'aspect de la télé, est-ce que la poussée du Canadien en série, est-ce que tu penses que ça a pu sauver TVA Sports? Parce que, écoute, ça a été difficile dans les dernières années. L'investissement a été majeur pour avoir les droits de la Ligue nationale. Le Canadien n'allait pas très loin en série. Pas de Nordique non plus, parce que je pense que le plan A de TVA Sports, c'était d'avoir des matchs du Nordique. Est-ce que tu penses que ça a pu sauver le réseau, l'avenir de cette chaîne?
Je sais pas si ça va le sauver, mais c'est une forme de consécration là pour l'investissement exclusif qu'ils ont fait il y a quelques années. Tu as raison de le dire, là, ils s'attendaient à voir le retour des Nordiques. Ils s'attendaient à ce que les Canadiens soient plus performants. Ça a été relativement moyen là comme performance d'aspirant à la Coupe Stanley. Là, quand tu fais pas les séries plusieurs années consécutivement, dans un contexte aujourd'hui, tu sais que même Canadiens cette année avaient la 18e meilleure fiche. Et 16 équipes ont fait les séries, c'est parce qu'ils étaient dans une division un peu plus faible. Ça enlève rien au mérite qu'ils ont d'aller jusqu'au bout en finale. Mais c'est pas certain que ça va se reproduire nécessairement l'an prochain quand ils vont se retrouver dans la même division que le Lightning, que les Panthers, que les Bruins, que les Leafs, par exemple. Ouais. Alors, mais une chose qui est claire, c'est que TVA Sports, dans le passé, pouvait faire des audiences de peut-être 400, 450 000 pour des Coupes Stanley impliquant des équipes comme les Bruins et les Blues en 2019. Mais cette année, il était entre 1,5 puis 2 millions de téléspectateurs par match. Donc, c'est excellent comme résultat et ils en ont bénéficié. Puis bravo parce qu'ils le méritaient, ils ont patienté longtemps. Mais c'est tough, cette business-là, parce que tu as investi beaucoup de dollars dans un marché, mettons, plus petit comme au Canada, il faut que tes équipes performent puis lèvent. Là. C'est la même chose pour Sportsnet, qui ont eu eux aussi d'énormes chiffres cette année. mais c'est parce qu'une équipe canadienne était participante, il n'y a aucun doute.
Je te pose une question un peu plus nichée, Ray, parce que quand on parle de marketing, il y a la vente, évidemment, de mettre en marché le produit auprès des fans, bon, des clients et tout ça, mais il y a le marketing aussi qu'on peut faire auprès des autres joueurs de la Ligue pour les attirer chez vous. Jusqu'à quel point une saison, des séries comme le Canadien vient de compter, jusqu'à quel point on est capable de s'en servir pour faire une mise en marché auprès de joueurs qu'on veut attirer. J'ai en tête le Festival d'été de Québec. T'sais, on nous dit, par exemple, que souvent, il y a des montages vidéo qui sont faits, puis on fait des revues de presse, puis on envoie ça à des groupes de musique pour dire « Regardez, c'est ça le Festival d'été de Québec. » Tu l'as vécu de l'intérieur, jusqu'à quel point le Canadien peut se nourrir de cet engouement-là, de ce qu'on a vécu dans les dernières semaines pour attirer des joueurs ici?
C'est très important, mais c'est effectivement un ingrédient de plus dans une recette d'attirer des joueurs autonomes, d'attirer des joueurs et leurs familles. Tu sais, mets-toi dans la peau d'un joueur là pour un moment et dis-toi là, t'es joueur autonome, agent libre comme on dit, t'es disponible, tu peux aller où tu veux pour la durée que tu veux. Le contrat peut-être pas le contrat que tu veux, mais en tout cas tu vas être bien payé là. Alors, qu'est-ce qui t'attire le plus? Est-ce que c'est les conditions pour ta famille? C'est souvent le cas. Est-ce que c'est par exemple, tu veux un endroit qui où la météo est meilleure, le climat. Tu veux un amphithéâtre qui est toujours plein. Tu veux une ville de hockey où les gens ont une culture, connaissent le sport, connaissent ce sport en particulier. Tu veux une effervescence, une énergie, un dynamisme. Tu veux être reconnu. Ou tu veux pas être reconnu, tu veux être anonyme dans les rues à chaque jour. Tu veux pas être dérangé. Tu veux avoir beaucoup de couverture média ou t'en veux moins? Peu importe les raisons, là, ce sont tous des facteurs que les joueurs réfléchissent. Mais il y a une chose qui est claire. Gagner, là, c'est en haut de la liste.
Ben oui.
C'est sûr, ça, parce que tu sais, le joueur a une durée de vie, de carrière limitée. C'est vrai que la première préoccupation doit être son salaire, son gain. Parce que il sait qu'il va jouer pour une durée limitée. Il peut pas éterniser sa carrière 15-20 ans, ça arrive pas à tout le monde. Ça, c'est souvent 4 ans de moyenne en général dans le sport professionnel. Alors, le gars, il sait qu'il faut qu'il maximise, qu'il capitalise. Alors, en contrepartie, un club comme les Canadiens doit se dire, ben nous, on a des Suzuki et des Caulfield à offrir. Puis on a Carey Price qui vient de démontrer qu'il était un excellent gardien de retour à son niveau de jeu habituel. Puis on a fait une poussée, puis on peut en faire une autre. Fait que finalement, ça, c'est l'espèce de promesse d'avenir puis d'espoir que tu offres à tes partisans, mais aussi à des joueurs autonomes.
Ouais.
Fait qu'à quelque part, tu viens d'aider ta cause sur cet aspect-là parce que t'as prouvé que tu pouvais aller loin, battre des équipes établies et que t'as le potentiel d'être encore meilleur. Évidemment, toute chose étant égale, il n'y a pas de garantie, là. Mais les joueurs recherchent ces éléments-là. Tu sais, dans le baseball, j'utilise toujours le même exemple. Il y en a qui aiment ça jouer sous les feux de la rampe, là, les spotlights, puis jouer pour les Yankees de New York. Mais il y en a d'autres qui préfèrent aller jouer pour les Pirates de Pittsburgh.
Ben oui.
Complètement dans l'anonymat. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de médias. Personne parle de nous. C'est comme dans le hockey, jouer à Montréal versus jouer à Columbus. T'sais?
Mais alors, en même temps, puis c'est ça, Ray, puis en même temps, on pourrait dire jouer à Montréal versus Tampa Bay. Est-ce que le Lightning ne devient pas justement l'organisation modèle numéro un, t'sais, avec t'sais, deux coupes Stanley de suite, le sérieux de l'organisation? Puis en même temps, c'est une ville où, oui, les partisans sont là, mais t'as pas la pression de Boston, New York, Montréal, Toronto non plus à Tampa Bay. Là.
Ça, c'est un très bon point. Parce que je voyais des reportages sur les médias sociaux là hier soir après le match, les rues de Tampa étaient vides.
C'était vide,
bon.
C'est ça.
Non, mais j'ai été à Tampa, j'étais là en 2004 lorsqu'on a perdu en 4 contre le Lightning, 4 matchs de suite par un but, ils ont gagné la coupe, il y avait une grosse équipe, on n'était pas tout à fait au même niveau. Ça ressemblait beaucoup, sauf que c'était en deuxième ronde au lieu d'être en finale. Puis honnêtement, Tampa, c'est une ville comme ça. Les gens ne sont pas au centre-ville. Il n'y a pas de centre-ville. Il y a des gros édifices, des immeubles. Il y a une business. Mais c'est pas New York, là. C'est pas Boston. C'est pas Chicago, là. Ça bouille pas, là, dans le centre-ville, là. Il n'y a pas de rassemblement comme ça. C'est une ville où les gens vivent là. C'est la Floride, il fait chaud. Puis après la journée de travail, ils rentrent chez eux en banlieue. Ils vivent à l'extérieur un petit peu. Fait que c'était pas étonnant, là. C'est pas un reflet de l'intérêt du hockey à Tampa. Alors ça, je veux juste ramener les choses au clair parce que les villes américaines n'ont pas des bassins de fans de millions et de millions de fans de hockey. À Tampa, t'en as 20 000 dans l'aréna, j'arrondis, là.
Ouais.
T'en as peut-être 200 000 ailleurs. À Montréal, t'en as 20 000 dans l'aréna, t'en as peut-être 2 millions ailleurs.
C'est ça.
Ou plus. C'est pas pareil, là. Autrement dit, c'est beaucoup plus dur pour les équipes de mettre en marché leurs produits puis de convertir des gens à acheter des billets dans des villes comme ça, parce que tu as moins de candidats potentiels comme acheteurs de billets, par exemple. Mmh. Fait que forcément, il va y avoir plein de monde à la parade, mais hier soir, là, tu peux pas t'attendre à ce que ça déblatère dans les rues à Tampa, c'était pas le cas. Puis, par rapport à ça, je te dirais avec certitude que le Lightning, c'est la meilleure organisation dans le hockey.
Ouais,
à tous les points de vue. Ouais. Sur la glace, oui, c'est vrai. Puis on bénéficie davantage avec le plafond salarial. Mais honnêtement, là, ça fait des années qu'ils sont bons, le Lightning. Ça fait des années qu'ils sont aspirants. Ils ont perdu eux aussi la finale de la Coupe Stanley en 2015 contre les Blackhawks. C'est-à-dire, ils ont compris, là, le chemin est là. Les Canadiens, s'ils veulent être bons, là, allez copier ce qui se passe à Tampa comme côté hockey, là. Puis c'est toute là la recette. Côté spectacle, vous voulez aller à Vegas. Mais côté hockey, allez à Tampa. La façon dont ils repêchent leurs joueurs, qu'ils les graduent, qu'ils les développent, ils les rentrent dans l'alignement. La façon, quand t'as trop de bons joueurs, les gars, si tu es assez fort de dire que t'es obligé d'en laisser aller, t'en as trop de bons parce qu'ils méritent trop d'argent, mais là, c'est parce que tu viens d'atteindre le summum, si on
c'est ça, on appelle ça un beau problème. Ray, laissons de côté un peu le hockey. Je veux absolument qu'on se parle de tennis avec les incroyables performances de Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov, qui, lui, poursuit son parcours en demi-finale à Wimbledon. Jusqu'à quel point c'est un, pardonne-moi l'anglicisme, mais un game changer de se rendre aussi loin que ça dans un tournoi majeur comme Wimbledon. Oui, c'est bon pour le classement, pour la confiance, mais pour, tu sais, si on veut, la notoriété commerciale de joueurs comme Shapovalov et Auger-Aliassime?
Aucun doute. Puis d'abord, faut rendre hommage à Tennis Canada, là, qui en développe, oui, là, depuis Milos puis Eugénie jusqu'à aujourd'hui avec Bianca, là, qui souffre de blessures, là, mais qui a gagné un US Open. Puis les deux garçons, là, qui continuent de toujours bien figurer. Mais c'est pas facile au tennis. Parlez-en des Zverev puis des Dominic Thiem puis des Tsitsipas, là. Quand t'as Djokovic et Nadal, là, en pleine forme, puis une chance que Nadal est pas là, parce que ce serait probablement lui, là, qui serait en bataille en demi-finale demain. Puis Federer, ben, là, on se rend compte qu'il a terminé ou presque sa carrière, mais ce Big Three-là a dominé une génération complète. Alors, a éliminé des joueurs sans qu'ils aient un jour la chance de gagner. Fait que Félix puis Denis Shapovalov, ils arrivent au bon moment. Parce que le Djokovic et Nadal, ça achève.
C'est ça.
C'est pas un an, là. Mais ça achève. Puis ce qu'on voit avec Shapovalov, c'est qu'un revers à une main, un bon service, un gaucher, il me fait penser beaucoup à John McEnroe. Ce sont des armes sur gazon où la balle bondit moins vite. Lui, il a une vraie chance demain. Moi, là, je vais regarder ce match-là avec toutes mes intentions qu'il sorte Djokovic de là. Pas parce que j'ai quelque chose contre Djokovic, mais on est proche, là, de défoncer la porte. Puis lui, je le considère également comme Félix, comme nos joueurs à nous, là. Ses premiers succès à Shapovalov, c'était une victoire contre Nadal à Montréal, à la Coupe Rogers, il y a une couple d'années. J'étais sur place. Ouais. Je peux vous dire que ça va être important pour lui, puis pour leur donner la confiance qu'ils peuvent gagner dans les grands moments. Parce que ça, c'est un grand moment pour lui demain.
C'est ça, t'as parlé de Tennis Canada aussi tantôt, parce que c'était pas évident. Il y a eu des périodes beaucoup plus creuses au Canada, Ray. Est-ce que c'est l'argent qu'on a mis dans ça qui a permis de créer des joueurs performants? Parce que, tu sais, veux, veux pas, on va se le dire, c'est un sport qui coûte cher, là. T'sais, ça prend, faut que t'aies été entraîné ailleurs souvent et tout ça. T'sais, c'est pas facile de monter un joueur de tennis au Canada non plus.
Non. Mais honnêtement, le Canada est perçu comme un des meilleurs programmes modèles au monde. Et le succès des hommes, y compris Milos Raonic puis Vasek Pospisil, c'est plus impressionnant que les Américains. C'est pas peu dire, là.
Ouais.
Parce que compte tenu de la météo ici au Canada, pis des conditions et la population qui est 10 fois moindre, on développe des joueurs de haut niveau. Puis il y en a d'autres. Alors là-dessus, là, moi, je suis obligé de dire l'argent et les leaders, les décisions, l'infrastructure, le modèle et l'investissement versus le développement. Ça, c'est important, là. Puis le Canada a bien réussi. C'est un gros succès. D'ailleurs, le golf masculin et féminin aussi au Canada, deux autres sports individuels, commence à sortir du talent aussi, qui se manifeste sur le plan mondial. Alors, faut donner beaucoup de crédit à Tennis Canada, son leadership, des gars comme Eugène Lapierre, la qualité des tournois, puis de l'infrastructure, puis la façon dont ils prennent ces jeunes-là à un jeune âge dans des petits tournois locaux, municipaux, régionaux, les emmènent jusqu'à Montréal et à Toronto et à Calgary, les développent. Et après ça, on a des champions devant nos yeux qui sortent littéralement là du Québec ou de l'Ontario. C'est impressionnant. Alors, vraiment, là, c'est un grand moment demain, là, Djokovic contre Shapovalov. Oui. Imaginez Shapovalov gagne, il y aurait une chance de gagner Wimbledon, littéralement. Oui. Parce qu'il n'a pas de gros joueurs de l'autre côté. Ce sont des joueurs de son talent égal.
Incroyable. Le temps file, Ray, un mot sur les Jeux olympiques. Il a été confirmé ce matin que les Jeux olympiques de Tokyo, qui vont débuter le 23 juillet, vont se dérouler à huis clos à cause de la pandémie qui est en recrudescence là-bas. Jusqu'à quel point ça vient affecter le produit? Bon, oui, il n'y aura pas des gens d'instrade, comme on dit, mais il reste que, j'imagine que le nerf de la guerre, c'est beaucoup la télédiffusion, puis ça, ben, ça change rien là-dedans.
Ben, il y a toutes sortes de choses qui ont mal été, là, puis ils sont victimes de mauvaises circonstances. C'est dommage. C'était le dernier pion sur lequel on pouvait s'appuyer, c'est qu'il allait avoir des spectateurs locaux. Puis il n'y en aura pas. Alors, le reste, là, ça a tout tombé à l'eau. Ils ont dépensé, à date, autour de 20 millions US. Puis dans les coulisses, on parle de peut-être le double de ce que ça va coûter quand ils vont faire le bilan au Japon même. C'est pas quelque chose qui va être publié, ça. Ils ont des stades de 65 000 personnes qui vont être vides. Ils ont une infrastructure incroyable. Ils ont repoussé d'une année. Ils ont dépensé de l'argent en sécurité, en technologie, en maintenance pour garder tout ça en place. Puis là, à cause d'un autre état d'urgence. Puis je parle d'un état d'urgence au Japon, là. C'est 2000 cas par jour. 2000 cas, ouais, là. Je veux dire, non, mais honnêtement, il y a eu 32 000 cas aux États-Unis cette semaine. Ouais. C'est pas... Mais la différence, c'est le taux de vaccination. Beaucoup moins élevé au Japon que celle-là aux États-Unis. Mais aux États-Unis, c'était plein hier. Puis en fin de semaine, à l'Euro, à Londres, au Wembley Stadium, il va y avoir 70 000 personnes. Pas de problème. Ils ont 32 000 cas, eux autres, cette semaine, en Angleterre. Mais comment expliquer que c'est si mal géré au Japon, puis que ça vient perturber puis compromettre les Jeux olympiques? C'est incroyable. Pis si c'était pas une question d'argent, les Jeux olympiques auraient pas lieu.
C'est ça. Il y en a les contrats avec NBC, les contrats de télé. Là,
NBC puis les commanditaires qui ont dépensé des centaines de millions, mais ça va être un produit, littéralement, si vous me permettez l'expression, made for TV.
Vas-tu regarder l'Euro en fin de semaine, Ray?
Absolument. J'en rate pas une.
Salut, Ray. Hey, merci beaucoup, Ray. Salut. Ça a été un plaisir de collaborer avec toi tout au long de l'année. Nous, on part en vacances, puis on espère se reparler au retour à la mi-août.
Ouais, merci pour votre accueil puis pour l'invitation de participer avec vous autres. Toujours un plaisir pour moi, messieurs.
Merci, salut, bon Ray. Été. Ray Lalonde, notre expert en sport et marketing, toujours très, très, très intéressant d'y parler. On en prendra encore toujours plus. On pourrait faire une heure à chaque fois avec Ray.
Ça serait pas un problème.
Mais Alex Tétro ne nous aimerait pas.
La police du fun.
Voilà, Alex qui me signale qu'il serait temps de partir en pause. Alors, ce que Alex veut, Alex obtient. On revient.